TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Nous voici de retour sur les ondes aujourd'hui avec Thomas, Alexandre, Vianney et moi-même. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de tous les outils de mock, mock d'API en particulier. Donc tout ce qui va permettre de bouchonner, de simuler vos web services, vos services externes plus globalement, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles, soit parce que vous avez besoin de faire des tests, soit pour plein de raisons dont on va vous parler. En tout cas, ça permet aussi bien sur votre environnement local que ailleurs de pouvoir faire des tests en mode bouchonné. On appelle ça dans le jargon du milieu. Et on va en particulier vous parler d'un outil pour commencer, initier la discussion un petit peu, c'est Mockoon. Et pour vous parler de Mockoon, je vais laisser la parole à Vianney qui est en plein dedans en ce moment. Donc il sera parfaitement à même de nous présenter cet outil. À toi, le micro.
Bonjour à tous, merci Mathieu. Et effectivement, oui, sur un des projets sur lesquels je travaille en ce moment, on se sert beaucoup de Mockoon. Alors à quoi ça sert en fait? Ça marche en mode serveur, c'est un listener HTTP et HTTPS qu'on peut installer sur une machine et qui sert simplement à recevoir des appels. Et qui va ensuite avoir tout un système de règles à appliquer si on veut les appliquer, mais aussi tout un système de log qui va pouvoir tracer tout ce qui s'est passé. C'est la partie la plus importante. Et alors, comment on s'en sert? Tout simplement, on a dans un système, on est censé envoyer des notifications, des messages, des choses comme ça, des clients, des utilisateurs. Mais quand on est sur un banc de test, évidemment, on n'a absolument pas envie de le faire pour de vrai. On veut garder ça en interne, mais tester que tous nos envois se passent correctement, contiennent les bonnes données, etc. Et donc c'est là que Mockoon ou autre peut être utilisé comme point d'envoi en fait. C'est lui qui va récupérer toutes les notifications, tous les messages qu'on envoie. Et on va ensuite pouvoir, en analysant les logs, vérifier que tout s'est bien passé, que les messages envoyés sont les bons, que leur payload est le bon, que le paramétrage est le bon, puisqu'on peut mettre en place tout un... C'est assez complet, on peut mettre beaucoup de choses en place comme le HTTPS, les systèmes de certificats, de login mot de passe, qui peuvent simuler ceux que les clients utilisent et qui permettent de voir qu'en fait tout notre système est correctement développé. Ensuite, le système de règles, il peut aller assez loin. C'est d'abord vérifier les routes qui sont utilisées. Il y a des systèmes de regex en fait pour catcher certaines routes en fonction de certains caractères, des choses comme ça, pour appliquer ensuite des règles qui vont dire sur telle route, on va vouloir mettre du 404 par exemple volontairement, voir ce qui se passe. Sur telle route, c'est la bonne, on va renvoyer un message de sens, c'est-à-dire OK. Et on va même pouvoir envoyer des réponses, que Mockoon va être capable de renvoyer des réponses. Comme si c'était le client qui répondait en fait. Et là aussi, on peut définir tout un tas de règles. Il y a des intégrations avec des outils comme faker.js par exemple, qui permettent de générer dynamiquement à la volée des données qui vont être contenues dans la réponse et que notre programme qu'on est en train de tester va pouvoir récupérer. Donc en fait, ça permet... c'est quoi le vrai intérêt au final? C'est de pouvoir faire un test grandeur nature en avance de phase de ce qu'il va falloir mettre en production sans le mettre réellement en production. Ce qui est quand même le point le plus important ici.
Du coup, merci Vinette. J'ai pu aussi l'utiliser en effet pour les réponses, ce qui est plutôt sympa, c'est avec le template et le pattern moustache. Tu peux définir tes balises avec du repeat, tu peux utiliser Faker pour avoir des retours qui ressemblent un peu plus à la réalité plutôt que d'avoir toujours des données factices mais qui sont à chaque fois identiques et du coup refléter un peu plus ce que tu aurais sur une vraie API, quoi. Dans les autres fonctionnalités que j'ai trouvé sympa aussi, c'est à la partie proxy. Où tu peux dire quand je vais appeler donc mon Mockoon serveur, et tu peux lui dire sur certains appels, en fait, tu reroutes vers une autre API. Et si cette API, par exemple, elle n'a pas un endpoint de développer, et ben Mockoon, il peut prendre la main en disant sur cette route, sur ce paramètre, et ben là, tu me retournes ma réponse à moi, ou sinon là, tu reroutes vers autre chose, etc. Donc il peut intercepter, rerouter et tout, et je trouvais ça plutôt sympa.
Sur ce dernier point là, Thomas, ça veut dire que du coup, à partir d'une, imaginons, on a une spécification que du coup on vient intégrer dans Mockoon, une STI, c'est-à-dire que les développeurs front peuvent d'ores et déjà développer leur partie en se basant là-dessus, et au fur et à mesure que les développeurs back vont développer les API, ça va débrayer pour passer du coup sur les vraies API au fur et à mesure, c'est ça?
C'est ça exactement, tu débrayes, tu changes l'engrenage et tu définis à quel moment tu veux arrêter de cibler la partie factice gérée par Mockoon et tu veux être dirigé sur les réalités.
Ah, c'est top ça.
En plus, un truc très important, j'ai l'impression que tu peux importer une définition d'API au format OpenAPI et que directement, il te crée les endpoints qui vont répondre. Donc en fait, si on a un swagger, on peut le copier directement, ce qui sort du swagger, et le mettre directement dans Mokun, ce qui est très pratique. Franchement, en termes de pour gagner du temps en développement, c'est un outil vraiment, vraiment bien fait, j'ai l'impression.
Ouais, moi, c'est de la façon dont je m'en suis servi à partir d'une spec OpenAPI. Après, je m'en suis servi uniquement en local. Je n'ai pas forcément fait la partie serveur dont parlait Vianney. Déjà, c'est très pratique en local. Et ce que je trouvais super pratique aussi, c'est que le fait que toute la configuration de Mokun était stockée dans un fichier JSON, qu'on peut du coup assez facilement partager, soit en balançant le fichier à un collègue, soit en carrément le versionnant en fait, derrière. Et ça, j'ai trouvé ça assez pratique. Il y a pas de... Tout n'est pas fourré dans 50 000 fichiers et c'est assez facilement portable, donc c'est assez pratique d'utilisation.
Alors oui, ce dont tu parlais à Mathieu, c'est ce qu'ils appellent les environnements, et ils stockent ça dans des JSON, effectivement. Donc il y a un JSON par environnement qu'on peut transférer d'une machine à l'autre, ce genre de choses, donc ça c'est pratique. Maintenant, ça m'a amené en fait à une des choses que j'ai considéré comme un défaut avec Mokun, c'est que quand on veut lancer le programme de manière automatique, c'est-à-dire typiquement au CLI et pas en interactif, on veut pouvoir utiliser des arguments en disant « lance-moi Mokun sur tel environnement en utilisant tel fichier JSON, etc. » Et ça, en fait, c'est possible, heureusement, mais pas nativement dans l'exe. L'exe de départ, lui, il prend aucun argument, on peut rien faire avec. Il faut installer une extension qui est en fait un package Node qui s'appelle Mokun CLI, qui l'oblige donc à installer Node plus un package NPM et toutes ses dépendances pour pouvoir ensuite utiliser la CLI de Mokun, qui ensuite marche bien, mais moi, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'il y a des restrictions liées aux politiques de sécurité de l'entreprise, des choses comme ça, qui font que c'est pas forcément utilisable. Et dans ce cas-là, on est un peu coincé.
Ça me fait rebondir là-dessus, c'est qu'ils ont une image Node, Docker, ils ont une image Docker qui doit l'intégrer, justement, parce que c'est Mokun CLI, ce qui permet, en fait, de mettre ça sur des serveurs facilement, entre guillemets, faut avoir Docker, évidemment. Mais on peut très bien le déployer dans une infrastructure directement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que sur nos postes, on a notre configuration sous un fichier JSON, comme disait Mathieu. On va pouvoir le versionner, développer. Une fois qu'on arrive à une version qui nous plaît, on peut déployer un Docker avec cette configuration, avec ce fichier, et il va répondre tel qu'on l'a configuré. Et on peut se mettre en vraie condition. Par exemple, si on est derrière un proxy physique, on peut déployer Mokun ou derrière n'importe quel système de sécurité. Donc ça, c'est vraiment un plus. Il y a vraiment tous les outils dont on pourrait imaginer avoir besoin quand on développe une API, en fait.
Je rebondis sur la partie proxy, parce que ça aussi, c'est extrêmement pratique. Là encore, dans mon cas réel d'utilisation, il y a un proxy qui permet de sortir du réseau d'entreprise. On ne peut pas directement envoyer des notifications à tout le monde. Mokun permet aussi de le moquer, en fait, ce proxy. C'est-à-dire sur le même serveur, alors ça sera la même URL, mais on peut dire, je mets une route qui correspond au proxy, qui va rerouter dynamiquement les appels vers mes vrais appels qui sont à côté derrière, ce qui fait que pour notre code, pour notre application qu'on est en train de tester, tout se passe comme s'il y avait réellement un proxy, en fait. Et ça, c'est quand même c'est très très pratique.
Et puis, on peut même mettre les certificats côté serveur et tout ça. Enfin, tout l'aspect sécurité est prévu pour être implémenté. Donc, c'est vraiment l'outil ultime, je dirais.
Moi, j'ai quand même... Enfin, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une limitation. Malheureusement, c'est que sur Windows, Mokun n'est pas capable d'utiliser les certificats qui sont dans le store des certificats Windows. Ce qui oblige... Alors, comment on fait dans ces cas-là? On est obligé d'exporter le certificat au format PFX, où il y en a un autre, il me semble. Sauf que quand on fait ça, il faut exporter la clé privée avec. Et là encore, les politiques de sécurité de l'entreprise, en général, si c'est bien fait, ne vont pas permettre de faire ça. Donc là aussi, on peut avoir des soucis.
J'imagine que du coup, si tu utilises l'image Docker, tu peux mettre ton certificat dans l'image et l'utiliser avec une image Linux, quoi.
Si tu as les droits, en fait. Parce que encore une fois, il faut avoir le certificat qui contient la clé privée. Et si c'est quelque chose qu'on ne peut pas te donner, tu auras du mal à l'avoir.
Oui, bon, ça, c'est un autre problème.
Est-ce que l'outil permet de faire des choses du type simuler des erreurs, simuler des restrictions en termes de rate limiting, ce genre de choses? Où c'est vraiment dédié à l'exposition d'API et du coup, ce type de choses-là doit passer par un outil tiers. J'ai pas fait gaffe dans les fonctionnalités s'ils en parlaient.
Sur la partie rate limiting, j'ai pas vu. Par contre, tu peux simuler de la latence, mettre que ton endpoint met beaucoup plus de temps à répondre et du coup, voir si ton front réagit correctement, si ça timeout pas, etc.
Parce que du coup, je pense à ça parce que je suis tombé sur un outil très récemment dont on pourra reparler dans un autre épisode éventuellement, c'est le DevProxy, un outil de chez Microsoft, qui permet de simuler des API un petit peu et surtout de simuler des comportements pas normaux lors de l'utilisation de l'application, pas normaux, mais qui peuvent arriver. Typiquement une erreur, typiquement un 412, ce genre de choses-là, et qui permettent de valider la robustesse de l'application à la survenue de ce type d'erreur. Je me posais la question si beaucoup d'intégrer ça ou si du coup il fallait passer par cette brique intermédiaire, enfin rajouter une brique intermédiaire.
C'est, en fait, tu parles du chaos engineering, là. Enfin, ils aiment bien appeler ça comme ça, mais c'est qu'est-ce qui se passe si le système il est déstabilisé, il y a des réponses, des erreurs un peu dans tous les sens.
Exactement.
En fait, Mokun, pour ce que j'en ai vu, c'est possible, sauf qu'il y a une partie un peu manuelle, c'est-à-dire qu'on peut insérer des scripts qu'on écrit directement dans les routes et comment ça répond, et on peut se servir de ces scripts pour dire, bah là, dans 5% des cas, tu renvoies un 500 ou ce que tu veux comme erreur. Et donc, ça permet de faire ce genre de test. Par contre, il ne me semble pas avoir vu que ça soit nativement intégré dans l'interface de l'application.
Ok, donc c'est possible, ça a été prévu, mais pas forcément. Enfin, l'outil n'a pas été fait nativement pour ça, donc il faut tuner un peu le truc. Ok. Alors, ça vaut peut-être le coup de passer par un dev proxy entre les deux. Alors, ok, assez intéressant. Ça marche, merci.
Après, j'ai une question pour vous qui avez, du coup, vous avez ingéré la spec OpenAPI pour qu'il puisse créer toutes les routes, etc. En général, sur un endpoint, tu peux avoir plusieurs réponses. Tu vois, tu as ta 200 parce que du coup, tu récupères ton OK avec tes informations. Mais par exemple, tu as ta 401 parce qu'il manque le token, le bearer token, enfin tout ce qui est autorisation. Est-ce que quand vous l'importez, il génère tout seul la règle que quand vous l'appelez sans lui donner l'autorisation, ça vous retombe par défaut une 401 ou c'est à vous d'écrire manuellement cette règle? Est-ce qu'il y a déjà des règles qui se créent toutes seules en lisant la spec ou tout est manuel?
C'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'on ait poussé les tests jusque là. Après, je sais pas exactement quand ça se passe le bearer token parce que autant on peut mettre du HTTPS sur Mokun avec soit des certificats, soit des tests de type login mot de passe, des choses assez simples. Le bearer token à la base c'est quand même lié à un serveur d'identification, OpenID, ce genre de choses. Et là, pour le coup, lui, il n'en a pas en interne. Donc, je ne sais pas quelle est exactement l'interaction entre ces tokens et Mokun lui-même.
En fait, donc quand tu définis ta route, tu lui définis les différentes réponses. Et pour chaque réponse, tu peux ajouter une règle. Et tu peux dire, alors cette réponse, c'est celle par défaut que tu me retourneras tout le temps. Et cette réponse-là, tu lui ajoutes une règle en disant, bah, si par exemple, en query param, tu as cette information, ou dans le header, il manque ça, ou si c'est un post dans le body, tu as cette information, bah c'est cette réponse qui sera retournée. Et du coup, tu peux switcher sur les différentes réponses que tu retournes en fonction de ce que tu reçois. Et pour des cas, je me disais standard sur l'autorisation, est-ce qu'ils avaient implémenté quelque chose par défaut? Mais a priori, peut-être pas. Hein.
Je suis pas certain, je vois très bien le scénario que tu es en train de décrire. Je crois que je l'avais en plus dans ma spec OpenAPI. Par contre, j'avoue que je ne me rappelle pas s'il m'a rajouté les règles ou pas. Par défaut, il part sur la route principale et du coup sur la réponse standard, le 200 OK en général. À vérifier, j'avoue, je ne suis pas sûr de la réponse. Je me demande s'il ne faut pas l'écrire à la main quand même.
Après, de ce que j'ai compris, dans tes réponses, tu utilises Handlebar. Enfin, c'est des templates moustache à l'intérieur que tu utilises. Donc, tu peux mettre un peu de logique, non? Enfin, déjà, tu sais plus faire des for each.
Ça, c'est pour ta réponse, mais tout ce qui est règle, ça se passe en dehors de ton template moustache.
Ouais, là, tu parles pas du contenu, tu parlais du code HTTP, du coup.
Ouais, c'est ça. Quand tu définis ta règle, t'as un sélecteur où tu choisis sur quoi tu veux te baser, tu définis tes règles typiques ça égale ça, du coup, je renvoie celle-ci ou pas, quoi.
Je sais pas si vous avez regardé la stack, enfin, ce qui a été utilisé pour le développer. Il me semble que c'est Electron, c'est une appli Electron, donc c'est du TypeScript. Et derrière, en gros, vu que le code source est disponible, tu peux très bien imaginer développer des parties pour ajouter ta logique, quoi. Donc j'imagine que si l'outil continue de prendre et écrase les concurrents nombreux qu'il a, il pourrait y avoir des extensions qui apparaissent, quoi.
C'est une excellente question, ça. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe s'il y avait des plugins ou des extensions qui étaient possibles actuellement, ou si l'outil est fermé, enfin fermé dans le sens tu peux pas l'étendre sans modifier le code.
J'ai pas l'impression que ce soit prévu pour l'instant dans l'IHM, en tout cas. Donc, à mon avis, faudrait faire un fork si on veut rajouter des fonctionnalités, quoi. Mais ça peut être une... Faut regarder, ils ont une roadmap, hein. Faut regarder dans la roadmap. Mais ils ont... ils ont peut-être prévu ça parce que c'est quand même, ça demande une manière de coder aussi. Faut que ce soit développeur friendly aussi quand tu veux faire des plugins. Hein. Si tu prends Visual Studio ou VS Code par exemple, il y a deux exemples d'implémentations différentes, on va dire. Mais c'est intéressant, ça serait intéressant d'avoir des plugins qu'on peut rajouter justement. Si on veut rajouter par exemple des logiques métiers directement avec du code qu'on intègre, ça serait sympa.
Bah en fait, tu peux mettre tout un tas de logiques, c'est ce qu'il y a dans les règles justement. Tu peux implémenter tes règles avec des scripts type JavaScript pour mettre ça, mais je suis pas sûr que ça soit un plugin. En fait, c'est plus du paramétrage pour le logiciel. C'est tu lui injectes des scripts et lui il les lance au moment d'exécuter les règles.
Ouais, donc finalement l'extension passe par les scripts que tu viens rajouter et que tu viens exécuter au moment où tu en as besoin. Bon, c'est ça, c'est une sorte de plugin en quelque sorte. Le job c'est pareil. Hein. Tu parlais d'écraser les concurrents, là. Alors je sais pas si on en a encore là, Alex, mais peut-être un outil est quand même bien foutu. Moi, je voulais en présenter un en particulier, et ça m'a fait marrer, parce que ce matin, quand j'ai ouvert le GitHub, je me suis rendu compte que bah, la librairie, elle était plus supportée et il l'avait abandonnée. Je vais quand même en parler, parce qu'elle était pas mal, c'était Stubby, une librairie JS qu'on avait utilisée sur certains projets. Qui était pas mal, ce qui permettait de la même façon, à partir d'une spec OpenAPI, de générer des mocks. L'arborescence était assez intéressante. En fait, tu venais lui préciser ton YAML ou ton JSON de spécification. Il était capable de l'interpréter et du coup de te générer les endpoints associés. Et tu pouvais lui donner des réponses sous forme de templates JSON que tu pouvais venir mettre dans une arborescence de dossiers. Donc, ce qui te permettait de générer, enfin de gérer différents cas, avec par exemple ton endpoint à la racine de dossier, et ensuite les différentes parties de ton URL, c'était des subfolders dans ton arborescence. Et du coup, à la fin, tu avais un fichier JSON qui contenait ta réponse finale qui était envoyée à l'utilisateur. Donc, du coup, tu pouvais gérer différents cas, c'était assez visuel, c'était assez intéressant. Ça pouvait très facilement tourner d'ailleurs en ligne sous forme d'un petit serveur web, un petit serveur HTTP. Soit avec une image Docker, soit avec du Node de mémoire. Donc ça marchait plutôt pas mal. Et du coup, je viens de voir que la librairie était dépréciée depuis quelques temps, donc j'avais pas fait gaffe. Et du coup, elle a été remplacée par Pretender, que je connais pas du tout, qui a l'air assez intéressante aussi, mais qui fonctionne pas tout à fait de la même façon. Parce que si je comprends bien, elle est uniquement utilisée côté browser. Donc il faudra que je creuse. Je préfère pas en parler tout de suite, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça bouge beaucoup. Pas si vous avez connaissance d'autres alternatives que vous auriez utilisées en dehors de Mocoon et Stubby, qui seraient mieux, moins bien, différentes. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir différentes briques.
Précédemment, j'avais pas mal utilisé Postman juste pour faire les appels HTTP, mais apparemment il peut faire la même chose avec des limitations. Par contre, pour en revenir à Mocoon, je vais vous laisser rebondir sur Postman. Le gros avantage que je vois à Mocoon aussi, c'est que la licence c'est MIT, donc c'est open source. Postman, on avait commencé à l'utiliser, et la licence, enfin la manière dont ils avaient leur business plan avait changé au fur et à mesure de la vie de notre projet, et on est arrivé à des limitations qui nous ont été imposées après. Donc l'avantage de partir sur Mocoon pour l'instant, c'est que vu que c'est MIT, au pire, on peut prendre le code source et le forker et continuer à utiliser l'outil, même si jamais il change d'avis plus tard. Quoi.
Ouais, juste dire un mot sur Postman. J'ai moins d'expérience avec Mocoon, mais globalement, ce que j'en ai vu... Bah, d'abord, Postman, c'est surtout utilisé pour tester des appels qu'on fait nous, pour vérifier les retours des API, des choses comme ça. Mais il y a un mode, comme Mocoon, qui permet de moquer des réponses, soit de recevoir des appels et de moquer les réponses. Pour ce que j'en ai vu, il y en a deux en fait, modes comme ça. Le premier, c'est un mode purement local, dans le sens localhost. C'est fait pour les devs, pour tester des choses vraiment purement locales en mode debug, alors que je n'ai pas testé, mais qui est gratuit, ouvert. Par contre, le deuxième mode, qui est un peu plus professionnalisé, on va dire, c'est celui qui permettrait de le déployer sur un serveur de bande test, des choses comme ça. Un peu comme moi, j'ai fait récemment avec Mocoon. Et là, pour le coup, ce n'est pas gratuit du tout. C'est Postman, il faut acheter une licence entreprise, il propose d'héberger ça dans le cloud, et c'est payant. Donc après, bon, j'ai pas utilisé, donc je peux pas dire ce que ça vaut vraiment, mais c'est une approche beaucoup plus commerciale, on va dire.
Ouais, j'avoue que moi, Postman, pour ma part, je m'en suis pas mal éloigné. Je trouvais l'outil un peu lourd. Alors, l'outil desktop, je le trouve assez lourd, pas forcément très agréable à utiliser. Je trouve que la GUI Mocoon, elle est un peu plus sympa, un peu plus allégé peut-être. Et je suis passé pas mal à Bruno pour faire mes appels. On en avait parlé dans ce podcast il y a quelques temps. pour faire mes appels HTTP. Après, j'avoue que Postman, c'est une boîte très commerciale. Alors après, je vois que Mokun ont aussi tout un bon commerce. Ils ont une offre pro qui est payante, un peu plus orientée cloud, qui se rapproche un peu de ce que tu présentais sur Postman. Donc, ils ont aussi ce pendant-là, mais j'ai l'impression qu'ils le mettent un peu moins en avant dans l'outil. C'est un peu plus agréable.
Alors, de ce que j'ai vu du plan payant de Mokun, c'était qu'il proposait pas mal de choses sur l'IA. Donc, je pense qu'il parie un peu sur la vague IA pour essayer de gagner du business, parce qu'en gros, ils peuvent générer des réponses avec des agents derrière. Donc, c'est sur ça qu'ils se sont orientés. Et perso, j'utilise beaucoup Thunderbolt dans VS Code, directement l'extension intégrée, quand j'ai besoin de faire des appels HTTP, parce que ça m'évite d'avoir à ouvrir un deuxième process en parallèle.
Je me posais une question sur du coup l'intérêt de déployer ton mock serveur en fait sur le cloud. Ce que tu veux, c'est juste faire des tests. T'as pas envie de tout sécuriser non plus, parce que sinon ça te met énormément de temps. Et du coup, le fait de l'héberger sur le cloud, du coup, ça permet à n'importe qui d'y accéder. Alors que toi, tu veux quand même que ça reste exclusivement pour les devs ou les testeurs. Je me posais la question sur l'intérêt.
Pour moi, c'est le bundling, l'intérêt, en fait, c'est qu'ils s'occupent de tout. Justement, ils s'occupent de la partie sécurité, hébergement, tout. Ils te disent, voilà, un endpoint qu'on vous donne, vous le paramétrez comme vous voulez, comme vous faites d'habitude, avec les routes, les JSON, les trucs comme ça. Par contre, on s'occupe de tout, on fait tout pour vous, quoi. Donc, c'est vraiment en mode SaaS.
Et du coup, pour y accéder, ils te filent une autant? T'es une surcouche d'autant? Ou c'est open bar?
Non, bien sûr, oui, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, enfin, moi, je suis pas allé plus loin, mais ce que j'imagine, c'est que tu crées un compte pour ton entreprise avec licence payant, etc., et que derrière, tu as des tokens d'authentification, des choses qui vont avec, effectivement. Donc, tu es le seul à pouvoir accéder à tes endpoints Postman.
Ok, donc ça ajoute un avantage, mais ça ajoute un peu de complexité, étant donné qu'il faut rajouter cette couche d'authent dans ta partie test, et cette couche, elle est exclusivement pour lorsque tu testes sur le service qui est du coup OnCloud. Parce que après, quand tu bascules sur ton vrai système, ton API, parce que normalement c'est quand même censé être temporaire, uniquement pour les tests, faut que tu puisses virer, déconnecter, débrancher cette partie.
Bah effectivement, avoir à l'usage. En fait, j'ai pas pratiqué, donc je peux pas vraiment faire de retour critique là, mais c'est possiblement oui.
Si ça se trouve, ils te proposent carrément de faire ton API derrière.
Ah, c'est pour gagner des projets, c'est ça? Ils sont malins, hein?
Au top, bon bah super, bah écoutez, c'était vachement intéressant, en tout cas ça permet d'en savoir un petit peu plus sur tous ces outils-là. Bon, on vous a parlé de Mokun, on vous a parlé de Postman, on a parlé un petit peu de Stubby. Évidemment il y en a d'autres, hein. J'en avais identifié quelques-uns, mais voilà, que personnellement je connaissais pas forcément, mais on vous mettra quelques liens, c'est toujours bien d'avoir différentes solutions. Mais Mokun semble quand même sortir du lot, aussi bien en termes de popularité qu'en termes de fonctionnalité et d'efficacité. Donc, c'est l'outil à suivre en ce moment. En tout cas, merci messieurs, merci chers auditeurs de nous suivre. Et du coup, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. Méfiez-vous, avec le mois de mai qui nous arrive, c'est possible que le planning d'enregistrement et de publication soit un peu perturbé. Donc, vous étonnez pas si parfois, un lundi matin, vous ne nous retrouvez pas. C'est que les congés sont passés par là. Voilà. On va essayer de faire au mieux, mais on ne vous garantit rien. En tout cas, merci à tous et bonne semaine.